As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com en ce lundi 21 juin 2021. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Bonjour Arpin, comment ça va aujourd'hui?
Ça va Marc-Antoine, ça va bien. On a toute une série maintenant, tout égal, 2 à 2.
Oui.
Une série 2 de 3 qui s'en vient, alors...
C'est passé beaucoup de choses hein, dans cette série-là jusqu'à maintenant. Il me semble que là, tu sais, ça.
On va en parler. On a de la matière pour faire un bon podcast aujourd'hui parce que oui, effectivement, c'était deux journées, deux matchs très mouvementés au centre d'eux.
Oui, absolument. Mais écoute, je voudrais qu'on commence. Avant qu'on parle des matchs eux-mêmes, j'aimerais ça qu'on revienne sur la question, la situation de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. C'est assez particulier quand même. Là. Deuxième année de suite où le Canadien est privé de son entraîneur-chef en plein milieu des séries. Évidemment, les circonstances sont pas les mêmes puisque Claude Julien avait été victime d'un malaise cardiaque l'année dernière. Mais là, au moment d'enregistrer le podcast, on ne sait, il y a toujours pas de clarification à savoir quelle va être la durée exact de l'absence de Ducharme, qui lui se dit tout à fait sans symptômes de COVID. Il est prêt à retourner au plus vite dans le giron de l'équipe. Mais écoute, comment vois-tu cette situation-là? Comment trouves-tu que le Canadien se débrouille au point de vue des communications puis de la stratégie en n'ayant pas Dominique Ducharme autour de lui?
Je trouve ça intéressant parce qu'une des forces de Dominique Ducharme, c'est sa façon d'interpeller ou de communiquer sur un plan individuel avec chaque joueur. T'sais, il aime ça dire que j'essaie de parler à chaque joueur à chaque jour. Si c'est une 30 secondes, 45 secondes avec quelqu'un autour de la glace ou 5-10 minutes avec quelqu'un d'autre qui avec des sujets un peu plus précis, mais il essaye à chaque jour de prendre un peu le pouls de l'équipe puis savoir comment chaque gars il se sent. Et c'est important pour lui. Et je pense que c'est une des choses qui fait en sorte que les joueurs le respectent, qu'il aime sa façon de faire. C'est ce contact individuel qu'il donne à chacun de ses joueurs quasiment à chaque jour. Puis je le crois parce que dans l'espace d'un morning skate normal, tu vas lui voir parler à 5, des fois 10 joueurs du début du skate à la fin. Là. Puis c'est quelque chose que évidemment il ne peut pas faire en ce moment. Je trouve ça intéressant quand même qu'il est capable de parler à l'équipe au complet avant le match, qu'il est capable de participer dans les réunions avec les entraîneurs. Ça, c'est une bonne chose, mais pour lui d'être pogné à la maison et pas capable d'avoir cette relation-là avec chaque joueur à chaque jour, ça doit être extrêmement difficile pour lui en ce moment. Puis je trouve que l'équipe quand même s'en tire pas mal bien sans leur entraîneur-chef au cours des deux matchs, particulièrement le match 4, même s'ils ont perdu. Je trouvais qu'ils ont joué un match, tu sais, comme Dominique Ducharme disait tout le temps, on cherche le match parfait. Et c'était pas parfait, ils ont juste marqué un but. Mais au plan défensif, c'était pas mal proche, là.
Oh, c'était impeccable. Écoute-moi, je me mets dans la situation, dans la peau de Dominique Ducharme, et ça doit être tellement enrageant. Tu sais, tu regardes les conditions dans lesquelles le Canadien se retrouvait, dans une bulle, testé sur une base régulière, vraiment avec des mesures sanitaires extrêmement serrées.
Base quotidienne.
Quotidienne, oui, absolument. Ouais. Ils ont reçu leurs deux doses de vaccin. Et là, pour une raison qui visiblement échappe à tout le monde, y compris à Dominique Ducharme lui-même, il ne comprend pas comment il a pu contracter la COVID-19. Mais là, pour lui, c'est la chance d'une vie. Je veux dire, il est entraîneur-chef par intérim. Il est une recrue derrière en tant qu'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Et il voit son équipe se rendre en demi-finale de la Coupe Stanley. Et du jour au lendemain, ça lui glisse entre les doigts pour une raison qui est complètement, je dirais pas arbitraire, mais qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a, 18 mois d'ici. Alors, je peux pas faire autrement que de me sentir très sympathique à sa cause, parce que c'est pas le genre d'occasion. Tu sais, comme on dit, les joueurs disent souvent, ben il faut qu'on saisisse l'occasion qui se présente à nous, puis qu'on saisisse notre opportunité, parce que au courant d'une carrière, se retrouver faire un long parcours en séries éliminatoires, c'est pas quelque chose qu'on a la chance de faire à chaque année. On sait pas combien de fois on va avoir l'occasion de le faire. Ben la même chose vaut pour un entraîneur-chef de la Ligue nationale. Peut-être qu'il va coacher pendant plus longtemps qu'une carrière de joueur, je veux bien, mais encore là, c'est pas certain. Sauf que là, c'est la première année qu'il se retrouve là. Il est à faire ses preuves dans la Ligue nationale et le tapis lui glisse en dessous des pieds. Souhaitons vraiment que ça durera pas trop longtemps, parce que franchement, c'est une situation qui, même si Luke Richardson semble faire du très bon travail et qu'il est estimé par ses joueurs, Ducharme, lui, écoute, mérite tout à fait de pouvoir retourner derrière le banc dès que la situation va le permettre, pour pouvoir reprendre les commandes de cette équipe-là, là.
Oui, absolument. Puis ça vaut la peine, peut-être pour ceux qui ont de la misère à comprendre le point de vue du Canadien là-dedans, puis comment ça pourrait arriver. Juste pour être clair, tu sais, Dominique Ducharme insiste qu'il n'est jamais sorti à Las Vegas. Il était dans sa chambre d'hôtel, dans la chambre qui est prévue pour les repas de l'équipe. Il est allé au gymnase de l'hôtel pendant les heures prévues où c'était réservé pour l'équipe. Il est allé à l'autobus, puis l'autobus l'a amené à l'aréna, puis that's it. Alors, il a spéculé que peut-être dans un ascenseur, à un moment donné, il a pu le pogner. On comprend que Las Vegas n'est pas exactement dans la même situation en termes des restrictions qu'on vit en ce moment ici au Québec, mais quand même, dans cet environnement-là, le Canadien était dans un environnement protégé. Alors, ça, c'est une chose, et c'était intéressant d'entendre, parce que, tu sais, on a entendu dire, Chris Johnson de Sportsnet, qui a rapporté que 14 jours de quarantaine seraient demandés de Dominique Ducharme, et si tu regardes les critères du santé publique, ça a l'air d'être ça, comme c'est ça la protocole du santé publique du Québec. Mais c'était intéressant de l'entendre dire le fait que tout le groupe va être complètement vacciné d'ici le 23 juin, ce qui est dans deux jours, ou mercredi. Alors, il espère qu'une fois rendu là, que puis lui-même aussi va être considéré comme étant pleinement vacciné le 23, que ça va être un facteur, mais je suis pas certain à quel point la santé publique va vouloir avoir l'air de faire une exception pour une équipe de hockey, vu qu'ils en ont déjà fait un. Puis déjà, depuis qu'ils ont fait cette exception-là, le Canadien est revenu, son entraîneur avait le COVID, puis l'autre équipe est venue, puis leur DG a le COVID. Alors, au niveau de santé publique, c'est un peu le pire scénario qui vient d'arriver pour l'exception que le Canadien a eu du gouvernement canadien, il faut dire. C'était pas le gouvernement provincial non plus.
Non, c'est vrai, mais t'as tout à fait raison. Il y a un accommodement raisonnable qui a été fait pour le Canadien, puis même au point de vue de l'élargissement ou de l'augmentation du nombre de spectateurs, on sent que, tu sais, François Legault étant tellement un grand fan du Canadien, tu sens qu'il a poussé en faveur du fait que le Canadien puisse accueillir plus de spectateurs au Centre Bell.
Il voulait 10 ou 12 000.
Ah ouais, c'est ça. Mais la santé publique a tracé un trait de manière beaucoup plus prudente, je dirais. Sauf que c'est clair que quand du jour au lendemain, le gouvernement dit « OK, ben là, les festivals et les spectacles pourront accueillir 3500 personnes », c'est pas un chiffre aléatoire. Tu sais, il n'y a pas un festival au Québec qui va s'organiser du jour au lendemain en disant « Oh, là, on peut organiser 3500 personnes ». Non, les festivals qui avaient pas le temps de s'organiser, ils ont déjà dit « À l'année prochaine, on revient pas ». Cette mesure-là a clairement été faite pour le Canadien. Alors là, tu sais, il y a une série d'accommodements qui sont faits, mais là, il faudrait que la POC roule dans le bon sens pour que ça continue de fonctionner, là, et que peut-être, sait-on jamais, on puisse voir, si le Canadien sera en finale à la Coupe Stanley, encore plus de gens aussi dans le Centre Bell.
Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est parce que moi, sur le coup que c'est passé avant le match 3, je me suis dit, puis en fait, j'ai passé aux radio et j'ai dit la même chose, c'est que d'une drôle de façon, ça pourrait aider le Canadien dans le sens où là, vous avez un autre obstacle qui a été mis devant vous. Ça peut leur tisser plus fort comme équipe. Ça peut leur donner un objectif commun, un autre objectif commun pour servir comme motivation. Puis le Canadien a sorti une vidéo avant le match 4 qui montrait Marc Bergevin en train de parler à l'équipe après l'annonce que Dominique Ducharme avait le COVID. En disant que, je vais le dire en anglais parce que lui, il l'a dit en anglais, il dit, tu sais, you're the poster child for adversity. Mm-hmm. Il l'a dit à son équipe, tu sais, vous êtes les, comment tu traduirais ça, là, c'est, vous êtes...
C'est difficile.
Mais, tu sais, vous en avez eu de l'adversité cette année, tout le monde l'a
vu. Vous êtes l'exemple type.
Puis alors, c'était clair que même Marc Bergevin voulait utiliser ça pour motiver ses gars, pour dire, écoute, là, il y a une autre chose qui vient d'arriver. Après le COVID, la semaine de pause de COVID, le calendrier qui est sorti après ça, toutes les blessures qui ont survenu après ça, tout ce que vous avez passé toute la saison, là, vous êtes arrivé ici, puis là, bang, un autre obstacle. Perdez votre coach, alors utilise-la, puis c'est un peu clair qu'ils l'ont pas fait dans le troisième match. C'était probablement un de leurs pires matchs des séries, même s'ils l'ont remporté. Mais dans le match 4, c'était vraiment... Tu sais, pendant le match, à un moment donné, je me suis dit, parce que je pensais la même chose pendant le match 3, on était au Centre Bell tous les deux, puis je regardais, puis j'étais comme, moi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dominique Ducharme en ce moment-là, en regardant à la télé sur son sofa. Et j'ai eu le même pensée pendant le match 4, puis j'étais comme, Dominique Ducharme doit être vraiment fier de la façon que son équipe joue ce soir-là. C'est vraiment toutes les étapes qu'il a mis en place quand il a pris charge après le congédiement de Claude Julien, toutes les petites choses qu'il voulait que cette équipe fasse, là, on le voyait pendant ce match-là. C'est vraiment le modèle de comment il voulait, tu sais, support autour du rondel, 5 gars dans l'écran, chaque avant en vague, tuer des jeux en vague, il y avait
les petites batailles à 2 contre 1 dans différentes zones de la patinoire.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est toutes les choses qui parlaient. Le Canadien était en train de le faire sans même y penser. Puis ça m'a fait penser à sa femme. Tu sais, une ceiling où, tu sais, il faut nettoyer tes souliers de danse là, pour aller à la danse. Et puis sa réponse à ça, c'était que il faut que tu sais exactement c'est quoi tes pas de danse sans y penser, rendu là. Puis le match 4, c'était ça. Là. Toute l'équipe connaissait leur pas de danse, puis il fallait pas y penser. Et malheureusement, d'une façon quand même assez ironique, ils ont perdu ce match-là. Alors le match qu'ils auraient dû perdre, ils ont gagné. Puis le match qu'ils auraient dû gagner, ils ont perdu. Alors je dirais que à 2-2, les Canadiens sont pas mal où ils devraient être. Mais je trouve qu'après le match 4, Dominique Ducharme doit être beaucoup plus soulagé qu'il l'a été après le troisième match.
Justement, ce quatrième match-là, est-ce que tu trouves que... Tu sais, il y a clairement, si tu regardes du côté du Canadien, il y a clairement matière à être encouragé parce que tu parlais de la, de l'aspect défensif. Je pense que ça, c'est très encourageant. Il y a des joueurs qui, au point de vue offensif aussi, sont actifs, qui ont généré des chances de marquer sans nécessairement capitaliser dans le dernier match. Mais je pense que c'est pas non plus une cause perdue quand tu regardes un gars comme Corey Perry qui continue d'être menaçant, Cole Caulfield qui est une menace pour marquer un but à chaque présence sur la patinoire. On dirait que plusieurs, Brendan Gallagher qui a joué un match sensationnel, à un moment donné il va bien finir par trouver le fond du filet. Je pense que il y a quand même des éléments intéressants, même au point de vue offensif pour le Canadien. Mais cela étant dit, c'est quand même les Golden Knights qui ont remporté ce match-là. Et eux, ils se disent, ben là, il y a un match où on a très bien joué et on ne l'a pas remporté. Puis après, ben, on a fait preuve de caractère pour pouvoir aller égaler cette série-là puis éviter de se retrouver dans une position où on serait 3-1 dans la série. Alors, est-ce que c'est une série qui est vraiment égale ou le 2-2, à ton avis, penche un petit peu plus en faveur d'une équipe ou d'une autre?
Ben, je dirais... Non, je pense que c'est pas mal égal, parce que les deux matchs à Vegas, le Canadien a complètement dominé les premières périodes des deux matchs. Vegas a complètement dominé les deuxièmes périodes des deux matchs. Puis, finalement, chaque équipe a remporté un match chaque. Puis, c'était quand même correct. Je trouvais que le Canadien méritait d'avoir une victoire sur deux. Et même chose ici au Centre Bell, c'était un peu différent. Vegas a dominé 40 minutes dans le match 3. Le Canadien a dominé 40 minutes pendant le match 4 et a perdu. Puis Vegas a perdu le match qui a dominé aussi. Alors, la seule chose que je dirais, ça penche un peu du bord du Canadien, c'est que les attentes envers le Canadien sont très différentes des attentes envers le Vegas Golden Knights. Si le Vegas Golden Knights est 2-2 avec le Canadien en ce moment, peut être vu comme quasiment un échec. Parce que tout le monde disait que le Canadien était chanceux, ils ont sorti de la pire division de la Ligue. Il n'y avait pas à affronter John Tavares en première ronde, il n'y avait pas de Mark Scheifele en deuxième ronde, ils n'ont pas leur place là. Vegas va complètement essuyer la table avec eux, ça va être facile pour eux autres, ils viennent battre la meilleure équipe de la Ligue nationale. Dans ce sens-là, la série est clairement pas ça. C'est quand même égal. C'est pas mal égal, non seulement en termes de matchs remportés par chaque équipe, mais en termes de ce qu'on a vu sur la glace. Puis, tu sais, si tu veux, en termes de statistiques en ce moment, après 4 matchs, si tu veux, en termes de pourcentage de buts attendus, c'est quasiment 53-47 pour le Canadien. Alors, c'est égal, mais juste en étant égal, c'est quasiment comme une victoire pour le Canadien parce qu'ils n'étaient pas supposés être capables de faire ça contre les Vegas Golden Knights. Eux autres, ils croyaient en leurs moyens, c'est sûr. Mais c'est sûr que le public ne croyait pas que ça serait le cas après 4 matchs. Puis c'est possible que Vegas non plus ne croyait pas que cette équipe du Canadien était capable de patiner avec eux autres, particulièrement après avoir battu Colorado 4 matchs de suite. Là. C'est quand même une machine de hockey, l'Avalanche du Colorado. Ça serait parfaitement raisonnable de croire que Vegas aller sortir de cette série-là puis juste continuer sur la façon qu'ils jouaient puis que après 4 matchs ou peut-être 5 matchs, ça serait terminé contre le Canadien. Là. Alors,
ouais. Alors
c'est pour ça que je dirais que le 2-2, c'est égal, mais le fait que c'est égal, à mon avis, ça penche un peu vers en faveur du Canadien.
Moi, tu vois, je trouve qu'il y a une différence à faire entre une équipe qui affiche qui a confiance en ses moyens puis une équipe qui va sous-estimer l'adversaire. C'est-à-dire que je suis certain que les Golden Knights, après avoir vécu l'Avalanche du Colorado, se sont dit « OK, on a tous les outils qu'il nous faut pour aller remporter la Coupe Stanley. On est rendu à la moitié du chemin, on continue. » Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils vont regarder le Canadien Montréal et se dire « Ça va être une promenade dans le parc » Pas du tout. Je pense que c'est une lecture des choses que les gens à l'extérieur font, que des amateurs font, que bien les médias font également. Tu sais, tu mentionnes le fait que le Canadien a battu les Maple Leafs sans John Tavares, les Jets de Winnipeg sans Mark Scheifele. Ben, moi, je trouve que dans tout ça, ceux qui relèvent ces éléments-là ne donnent pas aux Canadiens suffisamment de mérite. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Canadien de Montréal était en retard 3-1 contre les Maple Leafs de Toronto dans une situation où les Maple Leafs n'avaient déjà plus John Tavares. Ils ont poussé le Canadien au bord de l'élimination sans Tavares. Alors, est-ce que ce serait l'absence de Tavares qui ferait que du jour au lendemain, si le Canadien a réussi à remonter la pente et à les éliminer, c'est juste parce que Tavares n'était pas là? Je pense que c'est discréditer le Canadien. Mark Scheifele, qui a eu une sérieuse crampe au cerveau à la fin du premier match, s'est sorti lui-même de la série. C'est pas un cadeau qui a été fait au Canadien. Le Canadien, dans ce premier match-là, a fait tout ce qu'il fallait pour frustrer Mark Scheifele. C'était évident. La moutarde lui montait au nez plus le match avançait dans ce premier match-là. Écoute, je me demande ce qui serait arrivé s'il était resté dans la série. Mais je pense que pour qu'un gars sorte de ses gonds et pose un geste d'indiscipline comme celui-là, c'est parce que le Canadien a fait quelque chose de bien qui a mené le meilleur joueur de l'autre équipe dans cet état-là à la fin du match. Fait que, tu sais, dire, ben, le Canadien, c'est de la chance, ils sont rendus là parce que Tavares n'était pas là, parce que Scheifele n'était pas là. Non, je pense que c'est un ingrédient de la chose, mais c'est certainement pas suffisant pour expliquer ça. Puis je pense que les Golden Knights ont eu la clairvoyance de dire un instant, là, nous, on a le vent dans les voiles, ça va bien parce qu'on a battu l'Avalanche, mais le Canadien et nos prochains adversaires, il y a une raison pour laquelle ils sont là, puis il faut pas les prendre à la légère.
Ça, c'est évident. Il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui prend aucune autre équipe de la Ligue nationale à la légère. À chaque fois que les Maple Leafs jouaient contre les Sénateurs d'Ottawa, les Maple Leafs ne les prenaient pas à la légère. Et effectivement, les Sénateurs ont très bien fait contre les Maple Leafs cette saison. Sauf que, rendu à ce stade-ci, il y a un certain niveau d'attente que tu as quand tu regardes ton adversaire, quand tu essayes d'analyser tes chances d'avancer à la prochaine ronde. Puis, ça serait normal pour que les Golden Knights pensent en sortant l'Avalanche du Colorado en 6 matchs, non seulement en 6 matchs, mais après avoir pris un retard de 2-0 puis remporter les 4 prochains matchs, ça serait normal de penser que le pire de leur chemin est déjà passé. Que là, leur plus grand obstacle est derrière eux. Alors, d'avoir un certain relâchement contre le Canadien, de penser, OK, peut-être là, on voit que ça devrait, en principe, être plus facile que ce qu'on vient de faire. Ça, c'est normal, sans nécessairement les prendre au légère, mais en derrière de ta tête, de dire que, hey, wow, on vient de battre l'Avalanche du Colorado, là, c'est quand même, c'était un prétendant pour la Coupe Stanley, tout le monde les voyait comme étant le champion. C'est deux choses différentes, là. Je dis pas que Vegas regarde le Canadien puis les prend à la légère parce que ils l'ont dit. Peter DeBoer l'a dit très clairement. Cette équipe-là vient de sortir deux équipes de qualité. On les prend pas à la légère. Je le crois. Sauf qu'à un certain point, il y a quelque chose qui est pas conscient peut-être dans ta tête, mais il y a quelque chose qui arrive quand tu regardes. Honnêtement, si j'étais un joueur de Vegas, puis je le comprendrais très bien que de dire, là, on a une opportunité. Il y a une opportunité qui se présente devant nous. Et c'est pas la même chose pour eux autres le Canadien le pense aussi qu'ils ont une opportunité. Mais je pense la mentalité du Canadien, c'est que nous, il faut qu'on joue des matchs parfaits pour battre cette équipe-là. Tandis que je pense que Vegas dit si on joue notre game, on devrait être correct. T'sais? Alors là, je pense ce qui est évident, c'est que c'est pas suffisant pour que Vegas Golden Knights joue leur game puis tout va être correct parce que le Canadien ne leur permet pas de jouer leur game. Et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas qu'il a pris le Canadien à la légère, mais je pense que tout ce qu'il croyait de leur équipe et la façon la potentiel qu'il avait pour battre le Canadien, où il fallait vraiment maintenir ce qu'ils ont fait pendant 4 matchs et ça va bien aller contre le Canadien, là, il faut repenser ça de leur bord, là. C'est ça que je veux dire. C'est, tandis que les Canadiens, ils n'ont pas à repenser quoi que ce soit parce que la formule qu'ils ont utilisée à date est efficace, puis ça leur donne du succès, puis ça leur donne la preuve que le système que, effectivement, Dominique Ducharme a mis en place fonctionne pour eux autres. Tandis que je pense, au niveau des Golden Knights, il y a beaucoup de questions qui se demandent en ce moment-là, puis c'est à cause de ce que le Canadien fait. T'sais. Aujourd'hui, Jonathan Marchessault qui parle du fait qu'aucun des attaquants du top 6 a fait quoi que ce soit en termes de pointage. Les défenseurs qui se font demander pour comment ça se fait que c'est vous autres qui marquez tous les buts, puis les attaquants font rien. Il y a beaucoup plus de questionnements dans le camp des Golden Knights que dans le camp des Canadiens. C'est ça mon point, c'est que il doit y avoir des questions qui se demandent à l'interne chez les Golden Knights aussi en ce moment pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour battre cette équipe-là parce que ce qu'on faisait avant, c'est pas suffisant de juste continuer ce qu'on faisait avant, de juste jouer notre game pour sortir le Canadien, parce qu'à date, ça n'a pas vraiment été le cas. Même si c'est égal 2-2, ça n'a pas été aussi facile que... Non, je pense pas que Vegas pensait que ça allait être facile, mais c'est clair qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires de leur bord.
Ce qui est, en tout cas, ce qui est frappant, c'est que les Golden Knights, dans leur série précédente face à l'Avalanche du Colorado, ont réussi, après les premières rencontres, à vraiment limiter la menace que représentait Nathan MacKinnon. Et là, ils sont en train de se faire jouer un petit peu le même tour par le Canadien au sein de leur premier trio. Max Pacioretty, on l'a un peu vu, on l'a entendu à cause de la réaction de la foule dans les deux derniers matchs au Centre Bell, mais on l'a un peu vu dans les deux derniers matchs. Évidemment, il a été au centre du but gagnant de son équipe en prolongation, le but de Nicolas Roy. Mais Mark Stone est absolument... il est pas vraiment un facteur depuis le début de cette série-là, puis je pense que quand ton capitaine, ton gars qui est censé être vraiment celui qui fait la plus grande différence en série et est pas en mesure d'avoir ce genre d'impact-là, je pense que c'est là où le si une quelconque forme d'inquiétude que le Canadien est capable d'instaurer chez les Golden Knights, c'est de pouvoir faire en sorte que Mark Stone soit tenu en respect à ce niveau-là, que Max Pacioretty n'est pas, face aux Canadiens, l'impact qu'il avait dans les séries précédentes. Que Jonathan Marchessault, qui a été un gars qui a marqué des buts importants, c'est une tradition pour lui en séries éliminatoires. Quoique l'année dernière, ça a été un petit peu plus difficile. Mais en général, c'est un gars qui, tu sais, c'est vraiment un gars qui élève son jeu en série. Encore là, il est un peu menotté face aux Canadiens. Carlson, même chose. Je pense que c'est vraiment là-dessus que le Canadien doit miser, c'est-à-dire de... Encore plus que dire, ben nous, du jour au lendemain, notre attaque va exploser, quoi que ce soit, c'est son étanchéité en défense et le fait qu'il soit capable de limiter les chances de marquer des deux gros trios des Golden Knights qui peut lui donner la meilleure chance. Ça, je pense que ça va être bien intéressant de voir si cette qualité défensive-là, il va être capable de la maintenir au courant, ben en fait, d'ici les trois prochains matchs.
En fait, juste un autre. Une note sur Mark Stone, c'est que, honnêtement, ces 12 derniers matchs, il a marqué un but de passe. Okay? Mm. C'était fait pendant 3 matchs de suite contre Colorado. Les matchs 3-4-5. Et à part ça, rien. Alors, contre Colorado, c'était comme correct parce que Mark Stone avait le double mandat de marquer des buts, mais aussi contenir le gros trio de MacKinnon. Alors, je pense que c'était justifiable qu'il se concentre plus sur la défensive. Comme tu disais, Marchessault, le trio de Marchessault allait bien. Les Golden Knights jouaient bien. Alors, c'était pas une histoire. Là, évidemment, c'est une histoire. Il y a aucun point dans la série contre Montréal à date. Il y a quasiment pas de tir au but, là. Si je me trompe pas, il y en a peut-être 5-6 tirs au but dans la série. Alors, oui, c'est quelque chose que... Tu sais, tout ça est correct quand tu gagnes. Tu sais, quand tu gagnes, puis un de tes vedettes n'est pas en train de produire, c'est comme, tout va bien, mais il y a un petit pépin ici qu'on pourrait régler. Mais quand tu es rendu... C'est 2-2 contre une équipe où personne s'attendait que ça allait être difficile contre eux, même si les Golden Knights ne croyaient pas en ça. Là, les questions commencent à rentrer assez fort et la pression commence à monter. Alors, on verra ce que ces deux gars-là pourraient faire à Vegas. On verra si Chandler Stephenson va faire son retour dans le match 5. Je pense que Peter DeBoer a dit lundi matin que son retour est sur l'horizon. Alors, c'est la première fois qu'il a vraiment dit quoi que ce soit sur l'état de Chandler Stephenson. Alors, ça pourrait faire en sorte qu'on reverrait Stephenson dans le cinquième match. Mais de tous les joueurs des Golden Knights, celui qui a le pire pourcentage de buts attendus sur la glace 5 contre 5, c'est Mark Stone. Oh. Alors, c'est vraiment quelque chose.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
L'autre chose aussi que j'aimerais, sur lequel j'aimerais t'amener, c'est le changement de gardien. Évidemment, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont pensé que la bourde de Marc-André Fleury, tard dans le troisième match, celui qui a permis aux Canadiens de niveler la marque et éventuellement de l'emporter en prolongation, c'est ce qui aurait pu faire en sorte que on procède à un changement de gardien. L'entraîneur-chef Peter DeBoer a dit « ça n'a rien à voir ». C'est juste qu'on joue beaucoup de hockey. Notre gardien de but est toujours le même depuis un mois et puis je le sens fatigué. Donc, l'occasion était bien choisie. Le moment était bienvenu de pouvoir se tourner vers notre profondeur puis d'aller vers notre autre gardien. Sais-tu quoi? Je suis prêt à accepter cet argument-là puis à laisser de côté le fait que l'erreur qu'a commise Fleury pourrait ne pas avoir influencé sa décision. Mais si c'est simplement une question de lui donner une chance de respirer puis prendre son souffle, qu'est-ce qu'on fait après une performance comme celle que Robin Lehner a servie face aux Canadiens? J'ai de la difficulté à voir les Golden Knights retourner vers Marc-André Fleury après ça. Ils ont un gardien de but qui leur a donné vraiment une excellente chance de l'emporter au cours du dernier match, qui s'est imposé, entre autres, lors d'une échappée de Cole Caulfield en troisième période, qui aurait vraiment pu casser les reins des Golden Knights. Je veux dire, de la manière dont Robin Lehner a gardé les buts dans le quatrième match, il mérite de jouer la suite de la série, ou à tout le moins le prochain match, non?
Ben oui, non, c'est évident. Puis c'est une bonne situation pour Vegas, mais dans le sens où il n'y a pas vraiment une mauvaise réponse là-dedans. T'sais, tout le monde pensait à cause du fait que Robin Lehner s'est fait malmené dans le premier match contre le Colorado, mais je pense que c'était tout le... Si quelqu'un a regardé le match, c'était toute l'équipe qui était complètement malmenée. Il venait de jouer un match 7 contre Minnesota. C'était pas évident pour personne, incluant Robin Lehner, mais toute l'équipe. C'était, quand tu donnes 7 buts, c'est pas juste le gardien. Là. Alors, Robin Lehner a vraiment permis aux Golden Knights d'avoir cette victoire-là, parce que sans lui, ça aurait été 2-0 ou 3-0 en troisième période. Il n'aurait pas eu la chance de faire l'égalité. Et le fait de se retrouver en prolongation, c'était grâce à Robin Lehner uniquement, je dirais, là, honnêtement. Puis, alors, oui, c'est clair qu'il mérite un autre départ, mais du point de vue du Canadien, c'est... Il n'y a pas une grande différence. T'sais. C'est comme... C'est vraiment, à mon avis... Ça pourrait devenir une grande différence si Robin Lehner le fait encore. Ouais. Si le Canadien joue un autre match dominant dans le match 5, puis Robin Lehner permet à son équipe de rester dans le match, là, tu vas commencer à voir un certain effet comme on a vu avec Price et les Maple Leafs en première ronde, là, où le Canadien va commencer à penser un peu du fait qu'ils ne sont pas capables de battre ce gars-là. Ils vont commencer à faire des jeux qu'ils ne feraient pas autrement. C'est ça le danger quand un gardien joue bien. Je pense pas que le Canadien soit rendu là après une performance qui était quand même assez impressionnante dans le match 4 de Robin Lehner. Mais s'il le fait encore dans le cinquième match, là, ça va être une matière de discussion où ça va être quelque chose qui va peut-être commencer à rentrer dans la tête des Canadiens. Puis une fois que ça rentre dans la tête des attaquants ou des lanceurs, dans le fond, la bataille est un peu gagnée par le gardien. Alors, on verra ce que ça donne dans le cinquième match, mais à date, je pense pas que ça change pas grand-chose.
Non. Pour le Canadien. Ben, en fait, la raison pour laquelle j'amène ça sur la table, c'est que des fois, des changements de gardien de but, ça change vraiment le momentum dans une série. Puis je vois juste la possibilité, évidemment, c'est du Monday morning quarterback, puis c'est des conclusions qu'on va pouvoir apporter seulement dépendant de l'issue de la série, mais sauf que je vois très bien un scénario où éventuellement, si jamais le Canadien doit s'incliner dans cette demi-finale-là, qu'on se dise, ben, un point tournant, ça aura été le changement de gardien du côté des Golden Knights. Évidemment, ça va dépendre de la tenue de Lehner, mais c'est juste que des fois, tu sais, puis le Canadien l'a vécu il y a très longtemps de ça, oui, mais l'année où les Hurricanes de la Caroline ont remporté la Coupe Stanley, le Canadien était en train de se payer un festin face à Martin Gerber, puis lorsqu'on a décidé de se tourner vers une recrue du nom de Cam Ward, les choses ont complètement changé en faveur des Hurricanes. Donc, je ne sais pas si quelque chose d'analogue va se présenter face aux Golden Knights avec Robin Lehner, mais ça fait partie des intrigues qui vont être intéressantes à suivre pour la suite. Écoute, tout à l'heure, tu parlais d'adversité. Tu disais Marc Bergevin a fait valoir auprès de son groupe le fait qu'il a tellement traversé d'adversité cette année que c'est en quelque sorte ce qu'il définit maintenant. Est-ce que... Là, on peut pas faire ce podcast-là sans parler des arbitres, parce qu'en termes d'adversité, il y en a eu quand même pas mal, et toi et moi avons tous les deux écrit des articles au sujet dans les derniers jours, au sujet des matchs du Canadien, et j'ai l'impression que les amateurs trouveront jamais qu'on en a suffisamment parlé, parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus, et quand tu vois sur les réseaux sociaux, ça déborde. Aux États-Unis, ils disent « Coudon, au Canada, on ne semble parler que des arbitres. Bon, là, la série retourne à Vegas, on va pouvoir prendre au moins une pause de quelques jours de Chris Lee et Dan O'Rourke, mais est-ce que c'est est-ce qu'on a raison de s'en faire autant que ça? Je disais, bon, OK, je vais répondre à ma propre question avant de te céder la parole. C'est ridicule que ces deux arbitres-là soient en fonction en demi-finale de la Coupe Stanley. Ils viennent de nous le montrer dans deux matchs de suite. Mais est-ce que trouves-tu que ça a été... ils ont influencé ultimement le cours de ces deux rencontres-là?
Ultimement, non. Ultimement, parce que dans le match 3, le Canadien l'ont remporté en prolongation, malgré le fait qu'un bâton élevé assez vicieux la part de Jonathan Marchessault aux dépens de Corey Perry n'était pas pénalisé, puis que la justification était complètement ridicule, que Marchessault essayait de jouer la rondelle, alors c'était comme la continuation de son élan. Alors, c'était considéré que c'était pas un bâton élevé, ce qui est vraiment complètement un non-sens. Alors, non. Puis, dans le match 4, tu sais, je pense qu'il y avait des calls des deux bords qui auraient pu, tu sais, il aurait pu sévir plus tôt dans le match. Je pense que le premier incident, en fait, c'était Joel Edmondson contre William Carrier. William Carrier avait donné un bon double échec à Joel Edmondson juste avant. Et pour se venger, Joel Edmondson a donné un double échec dans le dos de William Carrier, puis l'a fait rentrer dans la baie vitrée assez fort. À mes yeux, c'est une pénalité. Peu importe ce que Carrier a fait avant, tu peux pas faire ça à un joueur. Et effectivement, plus tard dans le match, c'est arrivé à Shea Weber, exactement la même chose. Pas de pénalité. Alors Weber donne un double échec, parce qu'il n'allait pas avoir une pénalité, puis ça terminait que tous les deux, Tomáš Hnošek et Shea Weber, ont pris des punitions mineures. Mais c'est ça le problème. Quand tu essaies de gérer le match, quand tu essaies de faire en sorte que tu n'as pas un impact ou tu ne veux pas avoir un impact sur le résultat, ça fait en sorte que tu en as un impact sur le résultat, parce que la façon que le match est joué est complètement changée. Parce que tous les joueurs savent que tu as le droit de faire ça ou ça ou ça, tu sais, comme les doubles échecs en ce moment, je pense que tous les joueurs croient qu'ils l'ont enlevé, cet règlement-là de la ligue, tu sais, parce que c'est jamais call, il n'y a jamais de call là-dessus. Alors, moi, j'aimerais ça que les arbitres décident collectivement qu'est-ce qu'ils veulent voir dans une match des séries, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Si les doubles échecs sont permis, fine, mais juste dis-le, puis dis que c'est comme ça qu'on va caler les games, mais ils peuvent pas faire ça, parce que c'est pas vrai que les doubles échecs sont sortis de la livre des règlements. Mais quand tout ce qu'on a vu dans ce match-là est permis, le double échec de Edmondson contre Carrier, le double échec ou le plaquage à la bande de Nochek envers Weber, le double échec de Weber, toutes les choses qui sont ajoutées, le coup de poing de Braden McNabb sur Nick Suzuki avec Chris Lee qui le regarde à, comme quatre pieds. Mais avec tout ça, la première punition du match, c'était comme un accrochage anodin de Nick Suzuki
sur un jeu qui était ridicule.
Puis après ça, on savait que le Canadien allait avoir un jeu de puissance. Puis le call d'obstruction, je me rappelle pas c'est qui l'a eu, mais c'était contre Edmondson dans une bataille pour la rondelle. Et tout ça aussi, c'était ridicule. Les deux étaient ridicules. Et c'est ça mon point, c'est que quand tu commences à gérer le match, tu t'amènes sur une piste qui est de plus en plus ridicule le plus loin que tu y vas. Et c'est ça qui est arrivé dans le quatrième match. Là. C'est comme en vouloir pas avoir d'influence sur le résultat, ils ont eu une grande influence sur le déroulement du match, la façon que le match a été joué, et ça a un impact sur le résultat final.
Oui, exact. Ouais, la pénalité était à Alec Martinez.
Ouais, c'est
écoute,
ça.
Ouais, dans tout ça, par exemple, le Canadien, le résultat net, c'est que le Canadien ne va pas chercher beaucoup de pénalités, donc ne génère pas beaucoup d'avantages numériques. Et c'est un peu dommage parce que l'avantage numérique du Canadien en séries éliminatoires fait de l'excellent travail. Depuis le début des séries, ça va très bien leur affaire. Et tu sais, quand les soirs où tu as un petit peu plus de difficulté à profiter de tes chances de marquer, comme ça a été le cas dimanche, de pouvoir aller chercher au moins un but en avantage numérique, de pouvoir utiliser cet outil-là, je pense que c'est là où ça peut vraiment avoir une influence sur le cours de la rencontre. Malheureusement, le Canadien donc qui aura eu une seule supériorité numérique, ça n'a pas été du tout convaincant là, dans son exécution. Mais écoute, je crois que le Canadien a eu en tout, trois supériorités au cours des trois derniers matchs, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est nettement insuffisant. Et tandis que les Golden Knights, eux, depuis le début des séries éliminatoires, c'est une des équipes qui profite le plus d'attaques à 5. Donc, évidemment, on crée rapidement au complot en faveur des Golden Knights. Une rhétorique comme quoi, bon, la Ligue souhaite avoir des équipes strictement américaines, juste, etc. Bon.
Juste là-dessus, on va le dire, les Vegas Golden Knights, toute la saison, ont réussi à avoir beaucoup de jeux de puissance. Les Canadiens, toute la saison, a eu de la misère à avoir des jeux de puissance. Et c'est pas à cause d'un complot, c'est juste à cause de leur style de jeu, l'exécution. Il y a un paquet de facteurs qui expliquent ça, mais c'est pas un complot de la Ligue contre le Canadien. Je veux que ça soit clair.
Bon, ben voilà. Mais il faut que le Canadien... Tu sais, le Canadien, même s'ils sont devenus plus gros puis ont un peu modifié leur ADN cette année, c'est quand même une équipe qui est mise encore sur la vitesse dans une certaine mesure. Puis on en parlait avec Jeff Petrie ce matin. Petrie lui-même disait, écoute, il faut qu'on remette notre vitesse à la page puis au centre de l'agenda puis qu'on s'en serve davantage pour être l'équipe qui mène le jeu, puis plus tu utilises ta vitesse, plus tu mets l'autre équipe sur les talons, puis c'est comme ça que tu vas aller manufacturer des pénalités à l'autre équipe. Et j'ai l'impression que il y a certains joueurs, entre autres Byron, Anderson également, il y a certains joueurs, évidemment Caulfield, qui ont exploité leur vitesse, mais c'est pas tous les joueurs dans cette série-là qui ont réussi vraiment à utiliser, entre autres, la zone neutre pour pouvoir aller chercher de la vitesse puis attaquer la zone offensive en possession de la rondelle avec suffisamment de vitesse. Je pense que c'est peut-être un aspect dont il y a été moins question à propos de cette série-là jusqu'à maintenant, mais au point de vue défensif, les Golden Knights eux-mêmes font aussi certaines bonnes choses. Hein, et je pense que le fait que le Canadien ait de la misère justement à prendre son élan, ça fait partie de ça. Là.
Oui, absolument. Les Golden Knights, ça fait partie de leur ADN à eux de contrôler la zone neutre. Puis je trouve que le Canadien a beaucoup de misère de traverser la zone neutre en position de la rondelle. Ils sont forcés d'habitude de faire au moins une passe, sinon deux, pour se rendre d'une ligne bleue à l'autre. Les Golden Knights font un bon job là-dedans. C'est normal. c'est un peu ça, le hockey des séries. On voit souvent, il y a beaucoup plus de dump and chase en série qu'on voit en saison régulière parce que les équipes sont plus concentrées sur, sur l'aspect de défendre leur propre ligne bleue. On le voit avec les Canadiens. Les Canadiens ont souvent 4 joueurs sur leur ligne bleue. Alors, si tu veux rentrer dans leur territoire, il va forcément, tu dois le mettre profondément en territoire derrière leur défenseur puis essayer de le récupérer. Les Canadiens essayent de faire la même chose, mais c'est vrai que les joueurs que tu as mentionnés, je mettrais peut-être Suzuki là-dedans aussi, sont les gars qui sont quand même, qui ont quand même vu des opportunités ou exploité des opportunités de trouver des failles dans la couverture en zone neutre des Golden Knights pour créer des opportunités sur le rush, si tu veux, en transition. Quelque chose que les Canadiens, ça leur aiderait d'en faire plus, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ils sont pas la seule équipe sur la glace. Il y a des choses que les Golden Knights font qui rendent ça difficile. Alors, mais ce qui est clair à mes yeux, c'est que c'est pas ça la priorité du Canadien. Le Canadien est convaincu que l'offensive va venir. Le plus qui se joue avec une défense, tu sais, une étanche, une certaine intensité, leur structure défensive va leur permettre de créer des options en attaque. Ça a toujours été le cas que Dominique Ducharme aime toujours parler du fait que c'est un puzzle, c'est un casse-tête et que tous les morceaux comptent pour créer de l'offensive. Mais ce casse-tête-là, ça commence en zone défensive, ça continue avec le jeu de transition puis ça termine en marquant des buts. Et ça a l'air que le Canadien est pas mal convaincu que s'il continue à jouer en zone défensive de la façon qu'ils l'ont fait à date, que ça va créer des chances de l'autre bord pour débloquer offensivement. Mais c'est pas fou comme théorie ou comme idée ou comme priorité, parce que en ce moment, s'il y a une chose que le Canadien devrait se fier dessus, c'est leur jeu défensif, parce que c'est vraiment à point. Puis en plus, leur meilleur joueur est leur gardien. Alors de le supporter, de le permettre de performer, je trouve que c'est une bonne place de mettre tes priorités. Puis l'attaque va venir au fur et à mesure que tu es capable de tuer des jeux un peu plus rapidement, sortir de ta zone un peu plus rapidement, puis créer plus de répétitions en termes d'opportunités de transition. Il y en a un qui va finir par finir dans le filet des Golden Knights.
Ben ouais. Mais tu sais, quand on dit que la défense crée de l'attaque, c'est que très souvent, si l'autre équipe attaque et elle est compromise profondément en zone adverse, si tu réussis à reprendre rapidement le contrôle de la rondelle et de la sortir, tu crées un surnombre de cette manière-là. Si l'autre équipe essaie simplement d'entrer dans ta zone et que tu fais de la bonne pression arrière, puis tu vas chercher, tu brises le jeu ou la tentative d'entrée de zone de l'autre équipe et que tu t'arraches la rondelle comme Paul Byron l'a si bien fait dans le quatrième match. Il l'a fait à plusieurs reprises. Nick Suzuki est excellent à ce niveau-là depuis le début des séries. Je pense que au niveau des reprises de possession, c'est lui qui domine chez le Canadien. Ça aussi, c'est un autre aspect où de la bonne défense crée de l'attaque, parce que tu renvoies la rondelle de l'autre côté, puis tu as déjà des joueurs de l'autre équipe qui sont compromis, tu as des possibilités de surnombre. Et le Canadien a généré beaucoup de chances de marquer de cette manière-là depuis le début des séries, que ce soit par des échappées, par des 2-1. Écoute, ils ont même marqué 2 buts sur des 2-0, ce qui est quand même assez particulier.
En prolongation.
En prolongation, fois. Exact. Alors, tu sais, je pense que c'est normal que le Canadien veuille fonctionner de cette manière-là, parce que c'est avec le personnel qu'ils ont sous la main, c'est leur meilleure chance d'y arriver. Alors, je pense qu'ils tiennent quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais cela étant dit, on est toujours à la recherche d'améliorations possibles, d'ajustements, etc. Là, il y a un gars qui depuis plusieurs jours est de retour à l'entraînement avec le Canadien, mais qui portait, aux dernières nouvelles, lors du dernier entraînement de l'équipe, qui était l'entraînement matinal précédent le match 4, un chandail de non-contact, encore et toujours, et on parle ici de Jake Evans. Au moment où Jake Evans va être prêt à revenir à la compétition, est-ce que tu crois qu'il y a un joueur au sein de l'alignement qui mériterait de lui céder sa place?
Non, c'est ça le problème. T'sais, c'est comme, je vois pas... T'sais, je pense que tout le monde pourrait dire Arturi Lekkonen. Je serais pas d'accord avec ça. Je pense que il joue très bien en ce moment. Il aide ce trio-là. Jake Evans y amène beaucoup des mêmes éléments, mais peut-être un peu plus de flair offensif, je pense. Ou, tu sais, il y a quand même un certain élément d'attaque qu'il a que Lekkonen n'a pas l'air d'avoir, ou en fait, c'est juste différent de façon que Lekkonen aide l'offensive. Ça pourrait être une option, mais je trouve que Lekkonen joue du très bon hockey en ce moment. En fait, s'il n'avait pas été blessé, il n'aurait jamais cédé sa place parce que je trouve qu'il joue du très bon hockey depuis le début des séries, puis même les derniers matchs de la saison régulière, ce qui est complètement normal pour lui. C'est ce qu'il fait à chaque année, qu'il commence à... Il élève son jeu quand le niveau de jeu se lève en fin de saison. Dominique Ducharme a parlé des phases de la saison, mais Lekkonen, il est le preuve du gars qui est capable de suivre ça. Puis après ça, c'est... La seule trio qui va pas super bien en ce moment, c'est le trio de Kotkaniemi. Peut-être que Kotkaniemi pourrait être un candidat d'être remplacé par Jake Evans. Ça serait pas... Je serais pas outré de voir ça. Kotkaniemi n'est pas très constant dans son jeu. Anderson non plus. On parlait tantôt, le gars le plus constant sur ce trio-là, c'est Paul Byron. Alors peut-être que mettre un Jake Evans sur ce trio-là pourrait l'aider à trouver une certaine constance. Je sais pas. Mais c'est clair que Kotkaniemi serait une option. Lekkonen, c'est une option. J'aurais de la misère à sortir Byron de l'alignement.
Oh non.
Je toucherai pas à la ligne de Stahl, ça c'est sûr. Et je toucherai pas à la ligne de Suzuki. Alors, à mon avis, à mes yeux, si Evans va rentrer dans l'alignement, c'est par ces deux portes-là. C'est ou Kotkaniemi ou Lekkonen.
Mm-hmm. Moi, je pense. Ouais, j'ai de la difficulté aussi à voir comment les Canadiens pourraient faire un changement de cet ordre-là. Tu mentionnais le trio de Kotkaniemi. Anderson a quand même connu deux bons matchs. En fait, dans le troisième match, il a marqué deux buts. Son trio n'a pas bien joué quand tu regardes les présences l'une après l'autre, mais en termes strictement de résultats et non de processus, il a marqué deux buts, il a fait la différence. Dans le quatrième match, il était un rouleau compresseur, puis il a frappé les Golden Knights à qui mieux. Je pense qu'il laisse une bonne impression. Moi, ça m'apparaît un peu moins convaincant dans le cas de Kotkaniemi, c'est vrai. Pour ce qui est de Stahl, c'est ça que qui me chicote, c'est que ce trio-là est tellement efficace dans son mouvement circulaire, dans son cycling en zone adverse. Il est constamment en train de redonner du momentum à l'équipe. Sauf que c'est un trio qui me semble s'essouffler à mesure que les matchs avancent. Alors, en première période, c'est à chaque match, tu dis « Wow, le trio de Stahl qui fait la différence. » Puis à un moment donné, whoop, tu commences à les perdre un peu. Puis en troisième période, hier, Eric Stahl était plus vraiment capable de suivre le rythme. Et je me dis, est-ce que cette identité-là qu'il a été capable d'aller chercher avec Armia et Perry, est-ce que Evans serait capable de produire le même genre de hockey? C'est un style de hockey qui est complètement différent. Mais est-ce que Evans serait capable de faire du hockey de type cycling avec Armia et Perry, ou est-ce que son gabarit fait en sorte que peut-être que on aurait complètement un autre résultat là, à avoir ces trois gars-là ensemble?
Ben oui, je pense qu'il est capable de le faire. C'est un peu ça, son style de jeu, c'est ça. C'est à Laval, c'est ça qu'il faisait là. Il faisait du jeu de cycling, il faisait du jeu de possession en zone offensive. C'est quelque chose qu'il serait capable de faire. C'est vrai qu'avec son gabarit comparé à celui de Stahl, c'est pas exactement la même chose, mais il amènerait un élément de vitesse à ce trio-là que Stahl n'a pas, que personne l'a. C'est Armia qui est le plus rapide sur ce trio-là, puis je dirais pas que la rapidité, c'est la plus grande force de Joel Armia non plus. Alors oui, ce serait une possibilité, mais je pense que le personnel d'entraîneur aime ce trio-là tellement que je vois ça serait très difficile que... Parce que je pense que c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on les voit plus au début du match qu'à la fin. Mais pas Perry, disons, mais même Parmia, c'est juste Stahl qu'on voit plus au début du match qu'à la fin. Mais ses présences en début de match sont importantes. Là. C'est, ça, ça leur permet de, d'établir un rythme, ça leur permet d'établir du momentum. C'était très important dans, ben, dans le premier, deuxième et quatrième match, les trois matchs où les Canadiens ont dominé le début du match. Une grande partie de cette allure du match-là, c'était en partie en raison du trio de Staal et Perry Hermia. Et particulièrement, le jeu de Staal a été très important en établissant ce momentum-là qui a eu un certain effet sur la progression du match. Ça a eu l'effet voulu. Alors, j'ai beaucoup de misère à voir Eric Staal être remplacé. Puis aussi, juste sa présence comme vétéran, c'est quelque chose que je pense le personnel d'entraîneur respecte beaucoup. Mm-hmm. Luke Richardson a été demandé une question sur sa propre carrière à lui. Puis tout de suite, s'est mis à parler de l'expérience, puis a mentionné Weber et Perry et Price et Staal et tout ça. Tu sais, c'était même pas une question sur les joueurs, c'était une question sur lui. Puis il est allé de ce bord-là tout seul. Tu sais, alors, je pense vraiment, pour Jake Evans de rentrer dans la formation, c'est les deux gars que j'ai mentionnés tantôt sont les plus susceptibles. Et même à ça, je sais pas à quel point ils le sont, parce que, comme j'ai mentionné, Lekkonen complète Dano et Gallagher pas mal bien en ce moment, même si Evans l'a bien fait aussi avant sa blessure. Et Kotkaniemi, même s'il produit pas de résultats, à mon avis, il remplit son rôle quand même assez bien. Il est physique sur l'échec avant. Il met la rondelle profondément en zone adverse comme il est demandé de faire. C'est vrai qu'il produit pas grand-chose sur ce trio-là, mais je sais pas si c'est nécessairement le mandat de ce trio-là de créer des jeux, autant que c'est leur mandat de créer des revirements, de frapper d'être physique, d'être difficile à affronter ou difficile à jouer contre, comme tous les entraîneurs aiment dire à Montréal. C'est pas juste Michel Therrien rendu là. C'est, on a eu Claude Julien et Dominique Duchamp qui dit la même chose. Alors c'est ça, mais ça serait pas en se basant sur, ça fait plusieurs matchs là avec Jesper Kotkaniemi où il y a, de dire que c'est inconstant, ça serait peut-être généreux. Il y a des mauvais matchs là-dedans, il y a des bons qui sont parsemés un peu ici et là, mais pas avec une régularité assez constante. Alors, insérer Jake Evans à sa place pourrait être une façon de l'insérer aussi, là, mais en ce moment, il joue tellement bien que je suis convaincu qu'ils vont juste attendre. Ils vont attendre avant. Je pense qu'ils vont vouloir avoir besoin de Jake Evans avant de l'insérer.
Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Puis écoute, juste rapidement, là, en terminant, tu mentionnais Luke Richardson, puis Eric Staal, les vétérans, etc. Tout à l'heure, quand tu as mentionné le fait que Dominique Ducharme avait l'habitude de s'entretenir avec ses joueurs sur une base individuelle, puis que là, il n'était pas en position de le faire. On est rendu à un moment des séries où, si un entraîneur voulait le faire, puis voulait s'assurer que tout le monde soit, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que les joueurs sachent exactement ce que les entraîneurs attendent d'eux, puis que ce soit qu'il y ait un suivi quotidien qui soit fait. Si Dominique Ducharme voulait le faire et qu'il n'est pas en position de le faire, ben t'es peut-être mieux d'avoir une équipe qui est pleine de vétérans, de gars qui justement ont une large expérience des séries, pour que ce soit plus aussi critique que ces interventions-là individuelles de l'entraîneur aient lieu, parce que là, sans dire que les joueurs sont sur le pilote automatique, il y a une formule qui est clairement établie, il y a une façon de faire que le Canadien a trouvé, met en place soir après soir. Puis là, écoute, on est rendu en troisième ronde, puis je pense qu'il devrait plus y avoir de zone grise à ce moment-ci. Donc là, les joueurs d'expérience savent ce qui est attendu d'eux, puis je pense même que les jeunes le savent également, tu sais. Alors ça doit être ça doit pas être vraiment très compliqué pour eux de passer pour l'instant de Ducharme à Richardson, surtout que tu sais, Luke Richardson est tellement apprécié dans ce vestiaire-là, c'est assez frappant là. C'est dimanche matin, il y a Ben Sherratt qui disait, moi je parle au nom de tous les défenseurs en disant que je traverserai un mur pour ce gars-là. Tu sais, t'entends pas ça tous les jours. C'était assez élogieux.
T'sais. Puis même Richardson, après le match 4, disait quand il s'est fait demander qu'est-ce qu'il a dit à son équipe, ben, moi, j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai entendu Weber et Perry qui adressaient l'équipe quand j'étais pas là. Tu sais, alors, ça dit pas mal tout ce que tu as besoin de savoir sur comment la gestion du leadership se passe sur cette équipe-là. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de leaders. Non seulement ces deux gars-là, non seulement il y a Carey Price, il y a Eric Staal, il y a Gallagher, il y a plein de monde. Alors, c'est ça. C'est une équipe qui est, disons, bien équipée pour perdre son entraîneur en milieu de la série de demi-finale de la Coupe Stanley.
Oui, absolument. Bon, ben écoutez, merci tout le monde d'avoir été à l'antenne du Super Athlétique encore aujourd'hui. On va vous revenir plus tard dans la série. On a évidemment le parcours du Canadien continue. Alors, un peu plus tard cette semaine, nous serons de retour pour la version anglaise The Athletic Support. D'ici là, ben, je vous le rappelle, comme on le fait à chaque fois, que si vous n'êtes pas encore abonné à Athlétique, vous pouvez le faire pour lire les articles de Harpin, les miens, ceux de Pierre Lebrun, ceux d'une multitude de journalistes également qui sont affectés à toutes les équipes de la Ligue nationale. Il y a le repêchage de la Ligue nationale qui approche, donc on va avoir énormément de contenu très spécialisé relié à ça. Donc, si jamais vous voulez vous abonner à Athlétique, vous pouvez le faire en vous rendant au athlétique.com/supportathlétique, athlétique.com/supportathlétique, et en tant que personne en tant qu'auditeur de notre podcast, bien, vous pouvez obtenir un rabais sur la première année de votre abonnement. Alors, merci Harpin, on se retrouve bientôt.
Oui, à bientôt, on va revenir à un moment donné cette semaine, peut-être avant un match 7, peut-être après une victoire ou une défaite du Canadien, on ne sait pas, mais il y a beaucoup...
Probablement après le match 6, hein?
Après le match 6. Alors, ouais. Ça va être au moins ou en préparant un match 7 ou ça va être au lendemain d'une défaite ou une victoire du Canadien. Alors, il va y avoir beaucoup à discuter au prochain podcast en anglais, mais d'ici là, bonne game, bonne deux games, puis on vous reparle après le match 7.
Salut, bye-bye.